Alors, bonjour à chacun et à chacune. On va passer un moment, en effet, à partager la parole du Seigneur. Et ce matin, j'ai donné comme titre à cette prédication « Que chacun s'examine ». On pourrait donner un autre titre, mais voilà, j'ai donné ce titre, hein, « Que chacun s'examine ». C'est en effet l'appel que Dieu nous fait dans sa parole de nous examiner en tant qu'enfants de Dieu, jour après jour, et non seulement au moment de la Sainte Cène, mais nous sommes appelés à nous examiner en tant qu'enfants de Dieu pour savoir si notre façon de vivre, si notre façon de s'exprimer, si nos gestes et nos priorités reflètent la pensée du Seigneur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, je pense que vous l'aurez remarqué, qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et ce monde a quand même un impact aussi négatif dans l'Église, parce que oui, on ne vit pas en dehors de ce monde, hein, on est quand même quelquefois confronté, et la pensée du monde nous confronte, et des fois c'est un peu comme si on était ballotté par des courants d'air, et un arbre, c'est vrai que s'il y a du vent, il tient bien, il est ferme, mais il plie quand même des fois, hein, il est quand même un mouvement. Et nous, en tant que chrétiens, on est dans un monde aujourd'hui qui nous laisse pas insensibles et qui peut-être des fois peut avoir aussi un impact négatif sur nos vies. Donc, je vais vous donner quelques informations comme ça. Peut-être que certaines vous les connaissez, d'autres peut-être pas, qui nous donnent un petit peu un baromètre, mais on aurait pu donner plein d'autres informations, hein, un baromètre de la société dans laquelle on évolue actuellement. J'ai écouté dernièrement une interview d'un ancien dealer français qui porte le nom de Gérard Fauré, et cet homme a écrit, alors qu'il était en prison, plusieurs livres, dont un qui vient d'être édité, qui s'appelle « Dealer du tout Paris, le fournisseur des stars parle ». Donc, dans son livre, il dénonce des personnes très connues du monde du show business ainsi que de la politique, hein, des noms que, lui était fournisseur de cocaïne pour ces gens-là, et des noms qu'on s'imagine pas, comme un Chirac, par exemple. Hein? Donc, il donne des grands noms comme ça de personnes françaises qui étaient des consommateurs à son époque. Et puis, en fait, avant de sortir cet ouvrage qu'il avait déjà écrit depuis un certain temps, il a attendu, en fait, que soit ces personnes soient décédées ou soit que ces faits remontent à 30 ans ou plus, parce qu'en France, il y a une loi de prescription en ce qui concerne la diffamation. Cette loi, c'est 30 ans. Une fois que les 30 années sont passées, vous ne pouvez plus poursuivre quelqu'un pour diffamation. Et donc cet homme décrit un environnement du Grand Paris, hein, du show business et de la politique où on voit que l'immoralité y régnait. Et on peut se poser la question si aujourd'hui c'est vraiment différent. Parce que la consommation de cocaïne n'a pas diminué, hein, et aussi chez nous. Et on peut penser, par exemple, à toutes ces affaires aussi, ces histoires qui sont sorties par rapport à des viols et des harcèlements sexuels dans le monde du show business américain, hein, si c'est pas lié aussi en partie à la drogue. Parce qu'une personne qui est sous la drogue, et cet ancien dealer qui était lui-même un toxicomane et qui dit surtout ne vous droguez pas, hein, surtout ne prenez jamais ce genre de choses, hein, il n'était pas du tout en train de faire la promotion, mais voilà, il a réussi à se sortir de ce milieu-là. Il expliquait mais combien les personnes, une fois qu'ils consomment, vont avoir des comportements aussi au niveau de la sexualité complètement déviants. Et des personnes qui sont dans le show business, ben des fois en ayant pris ce qu'ils ont pris, ben il ne faut pas s'étonner que ça dérape. Et il y a toute cette campagne qu'on a entendue avec un slogan qui n'est pas très avenant, hein, « Balance ton porc ». Qui c'est qui a déjà entendu parler de ce slogan, hein? Et voilà, il y a quelques personnes qui lèvent la main. Hein, les médias en ont bien parlé. Donc voilà, c'est des affaires qui sont montées comme ça, qui font vendre les journaux, qui font la une dans les téléjournaux, dans la presse, etc. Mais on voit que en fait, c'est pas dans le but de chercher le pardon ou de chercher la réconciliation, mais c'est le mode de la vengeance. Hein. Aujourd'hui, c'est le mode de la vengeance qui est mis en avant dans notre société. Et bien sûr, quand je dis cela, je suis contre toute contrainte sexuelle, mais ça ne veut pas dire qu'ensuite, que la personne en tant que victime doit chercher à détruire la vie de l'auteur, de celui qui a fait le méfait. Et puis quand on voit les figures qui ont dénoncé, et comme par exemple il y a une figure de Proust qui a dénoncé justement ce qu'elle aurait subi d'un certain, je cherche le nom, c'est un Américain, c'est un réalisateur de films là, c'était comment? Weinstein ou un nom comme ça. Hein. Ben en fait la personne qui était à la base un peu de cette dénonciation, elle a à son tour été accusée pour avoir eu des relations sexuelles avec un mineur. Hein. Pour vous dire que vraiment le monde aujourd'hui, ça part un peu dans toutes les directions, et les personnes qui des fois veulent faire la morale aux autres sont dans une situation peut-être encore pire que ceux qui dénoncent. Alors, il y a des enfants qui rentrent. Si jamais il y a l'école du dimanche en bas, hein, vous pouvez, les enfants, vous pouvez descendre. Alors oui, nous vivons dans un monde qui met de plus en plus les valeurs morales de côté et qui dit au contraire que ce qui est bien est mal. Pas plus tard que jeudi de cette semaine, je lisais un article dans le 20 minutes et qui portait ce titre « Livre religieux offert à des ados, ouvrez les guillemets, c'est choquant, point d'exclamation, fermez les guillemets ». Et c'est simplement un chrétien qui fait partie des Gédéons qui a offert des Nouveaux Testaments près d'un arrêt de bus qui se trouve à côté d'une école à Genève. Et suite à ça, voici ce que dit une mère suite à cette action. Donc, c'est les propos que je reprends du 20 minutes. Hein. Distribuer un texte religieux, c'est du prosélytisme envers des jeunes influençables dans un pays laïque. Quel scandale! Alors que le père d'un autre ado se dit révolté. Et qu'un politicien genevois, Pierre Gauthier, s'exclame « Les gamins sont des proies faciles quand on attire en promettant un cadeau, c'est choquant. Hein? » Vous voyez, on inverse vraiment les valeurs. Partager la parole de Dieu, c'est choquant, c'est un scandale. C'est tout sauf quelque chose qu'on peut s'imaginer porter du bon fruit dans la vie d'un enfant. Et nous avons une société qui glisse de plus en plus dans la violence. Peut-être vous avez vu que le week-end dernier, il y a eu deux personnes dans deux situations différentes qui sont mortes hein, liées à la drogue. Donc, dans Yverdon, une jeune maman qui sortait avec un toxicomane, une jeune maman de 3 enfants et un jeune de 21 ans dans un parc public à Yverdon à 22h, hein, qui était les deux meurtres se sont faits par balle, hein, quoi, par fusil. Donc, quand quelqu'un se fait tuer dans une zone publique, dans un parc à Yverdon, que je vois très bien, hein, c'est pas un parc qui est perdu au fin fond d'une ruelle, hein, c'est un parc où il y a une école même à côté. Hein. Bon, là, c'était le soir, c'était samedi soir à 10h. Ben, vous n'êtes pas à l'abri de prendre une balle perdue. Ça devient quand même un peu le Far West. On s'imagine pas, mais on se dit, bon, ben voilà, la personne, c'est à cause du trafic de drogue, ma foi, voilà, c'est un règlement de compte, c'est terrible. Mais bon, ben seulement, si toi, tu te trouves là, au mauvais endroit, t'es pas à l'abri, une fois, de te prendre une balle perdue. C'est des choses qui arrivent hein, aux États-Unis. Régulièrement, il y a des personnes qui meurent. Pourquoi? Simplement parce qu'elles étaient dans un endroit public, il y a un règlement de compte, et puis la personne décède parce qu'elle se prend une balle au passage. On pourrait multiplier les exemples comme ça à l'infini hein, de notre société qui est de plus en plus corrompue. Qui c'est qui a entendu parler des gilets jaunes? Hein? Je sais pas. Vous avez entendu? Je sais pas. Hein, comme disait l'autre, à part ceux qui vivent dans une grotte n'ont pas entendu. Donc en France, en effet, il y a eu le week-end dernier une levée de boucliers. Des gens qui en ont marre de se faire taxer toujours plus, hein, encore plus de taxes sur l'essence. Et c'est vrai qu'on peut se poser 2-3 questions. Où va la France aujourd'hui? Alors moi, je fais pas de la politique. Hein. Vous pouvez voter gauche, droite, au centre, en bas, en haut. Moi, ça m'est complètement égal. Hein. Je suis pas du tout à faire la promotion d'un parti ou d'un autre. Mais simplement, ça m'inquiète de voir la société en France, dans quelle direction elle va. Et puis, quand vous voyez que, par exemple, ils ont fait voter des nouvelles lois de fiscales et des nouvelles lois de contrôle, ils voulaient même faire passer une loi qui autorisait le fisc à faire voler des drones au-dessus des propriétés privées pour voir s'il n'y avait pas des piscines qui avaient été construites, hein, pour montrer qu'en fait, les personnes vivent avec des moyens qui ne sont pas annoncés dans leur déclaration d'impôt. Donc, il y a des nouvelles lois fiscales qui ont été votées là tout dernièrement en France. Les Français vont se faire surveiller sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, pour dire « Ah bah tiens, tel, il est parti en vacances. Hein. » Et puis « Ah bah il repart encore en vacances. Puis t'as vu la voiture qu'il a, hein. Est-ce que c'est la voiture du cousin ou bien est-ce que c'est pas la sienne, celle-ci ?» Donc maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec tous les programmes informatiques, ben ils vont lancer des recherches comme ça, ils en ont l'autorisation. Hein. Et puis, il y a des situations qui vont sortir comme ça. Donc le français, il va être de plus en plus contrôlé. La société française, elle est dans une situation difficile. Et je dis pas qu'en Suisse, c'est meilleur, hein, mais je donne l'exemple des gilets jaunes pour dire que quand même, aujourd'hui, peut-être on s'imagine pas ça, mais peut-être aujourd'hui, pas aujourd'hui même, mais quand, j'en sais rien, mais on n'est pas à l'abri d'un gros clash civil en France et même d'un putsch militaire. Hein. Vous allez dire, ah mais non, un putsch militaire, mais tu rigoles Alexandre. Hein. Ça c'est les pays d'Amérique du Sud ou bien d'Afrique ou les pays de l'Est. Mais un putsch militaire ici en Europe, là, hein, nos pays civilisés, mais c'est pas possible. Mais on ne sait pas. On ne sait pas, un pays comme la France, un jour, peut passer par un putsch militaire. C'est possible. Hein. Le général, le chef de l'état-major français, qui est le général le plus haut placé de l'armée française, peut-être certains s'en rappellent, a donné sa démission l'année passée. Et depuis que Macron est au pouvoir, il y a déjà 7 ministres qui ont démissionné, alors pour des raisons différentes. Mais pour dire qu'aujourd'hui en France, la situation, elle n'est pas stable. Et que peut-être demain, ce sera encore plus instable. Et que, en fait, on est dans une société qui est loin d'être simple. Et qui a quand même une influence aussi sur nous en tant qu'enfants de Dieu. On va prendre plusieurs passages bibliques. Et un qui nous est bien connu, qui décrit la société de la fin des temps. Et on peut quand même se demander si notre apôtre Paul, parce que ça se trouve dans 2 Timothée 3, si notre ami Paul n'est pas en train de parler de la société dans laquelle on se trouve. Alors, on connaît bien ce passage, mais je vous le relis quand même. 2 Timothée 3, verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Enflés d'orgueil. Aujourd'hui, notre société met en avant l'orgueil, met en avant l'égocentrisme. Hein? Et je pense que ce texte-là nous décrit quand même assez bien le monde dans lequel on se trouve. Alors, l'orgueil, bonne nouvelle quand même, hein, pour dire que ça date pas d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre un texte, par exemple, comme dans le livre des Proverbes, Proverbe 11. Il y avait déjà un constat aussi d'une société qui ne devait pas être toute simple dans l'époque de l'Ancien Testament. Donc, on va lire Proverbe 11. Les versets 2 à 8. Proverbe 11, verset 2. « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. » Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'atteinte des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. » Je relis le verset 2. « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, hein, vient le déshonneur. Mais la sagesse est avec les humbles. » Aujourd'hui, l'humilité n'est pas mise en avant comme une valeur, comme un style de vie, mais bien l'orgueil de notre société. Et nous, en tant que chrétiens, bien sûr qu'on ne va pas entrer dans cette voie, parce que la Bible nous dit que l'humilité, que la sagesse, pardon, est avec les humbles. Mais la sagesse est avec les humbles. Si on veut vivre dans la sagesse de Dieu, alors cherchons simplement l'humilité. C'est une source. Si nous cherchons à vivre dans l'humilité, alors nous allons grandir dans la sagesse de Dieu. Je reviendrai ensuite sur ces proverbes ici que nous avons lus, sur ces versets de Proverbe 11. Mais on va regarder quelques textes qui nous parlent de l'humilité dans le Nouveau Testament. Et un premier qui se trouve dans Romains 12. Romains 12 au verset 3. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Par la grâce, je relis, qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie. N'ayons pas une trop haute estime de nous-mêmes en pensant que les autres nous sont inférieurs. Sachons rester simples et abordables envers les gens qui nous entourent. Ne faisons pas le culte de notre personne comme le fait la société. Hein, on est la société des selfies aujourd'hui, hein, c'est le culte de son image. Parce que nous savons qu'en tant que chrétiens, nous sommes l'argile et que Dieu est le potier. Amen. Et même en ce qui touche le domaine spirituel, revêtons-nous de sentiments modestes, selon la foi que Dieu nous donne, et non en cherchant à vivre des choses extraordinaires. D'ailleurs, on peut se faire une idée de la santé spirituelle d'un chrétien en regardant quel genre de choses il recherche sur le plan spirituel. Est-ce qu'il recherche des choses modestes ou est-ce qu'il recherche des choses extraordinaires? Est-ce qu'il professe des choses modestes, hein? Est-ce que dans sa vie, il va vous partager des choses modestes qu'il vit dans sa foi? Ou est-ce qu'il va vous partager des choses tellement extraordinaires? Vous allez vous dire, mais moi, je suis quelle sorte de chrétien, mon Dieu, mais je suis rien, je ne vis même pas le dixième ou le centième de ce qu'il est en train de me raconter au travers de sa foi. J'ai la foi en Dieu, mais moi, je ne suis pas de son niveau. Hein. Si on est dans ce genre de pensée, peut-être posons-nous la question, si la personne est en face de nous, est-ce qu'elle a des sentiments modestes, véritablement? Est-ce qu'elle recherche les choses simples dans le Seigneur ou est-ce qu'elle est dans une autre voie? Romains 12, verset 16, nous dit encore ceci. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos yeux. Hein? Laissez-vous attirer par ce qui est humble. C'est-à-dire qu'on ne doit pas chercher en tant que chrétien forcément des postes de responsabilité dans l'Église ou que ce soit aussi dans la vie professionnelle, vouloir à tout prix prendre du galon, hein, comme on dit. Mais se laisser interpeller par le Seigneur aussi par les choses humbles, par les choses simples de notre vie, de tous les jours, et aussi par rapport à l'engagement qu'on peut avoir dans le cadre de l'Église, être prêt à s'investir dans les choses tout simples, dans les choses humbles. Et peut-être c'est là où le Seigneur nous attend, et c'est de cette manière-là qu'il va nous bénir. J'ai écrit là, nous ne devons pas chercher à porter des titres, mais à servir simplement là où le Seigneur s'y trouve. Fais ton œuvre là où se trouve le Seigneur. Et n'oublions pas que Jésus, Christ lui-même, portait le titre de serviteur. Je lis juste comme ça, c'est dans Ésaïe 42, verset 1, vous connaissez ce passage. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. C'est le Père qui parle de son Fils et Jésus porte le titre de serviteur. Alors, à combien plus forte raison, nous aussi nous sommes appelés à entrer dans cette fonction de serviteur. Que Dieu nous parle pour garder ce cœur d'enfant et cette humilité au fond de notre cœur, de le servir tout simplement dans l'Église, et pas forcément d'attendre des choses tellement extraordinaires, mais de nous laisser guider jour après jour selon la volonté de notre Père Céleste. Philippiens 2, verset 3 nous parle encore de l'humilité aussi. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne rien faire par vaine gloire. Même en tant que chrétien, on peut des fois malheureusement faire des choses pour une gloire vaine. Mais qu'on puisse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et je pense que si dans notre société les gens vivaient ainsi, on vivrait quand même dans un monde complètement différent. Les gens seraient avenants entre eux, chaleureux, jovial, accueillant, bienveillant, courtois, agréable, serviable, aimant, souciant des autres, etc., etc. Si chacun pouvait regarder l'autre comme étant son supérieur, je pense que les relations humaines dans la société seraient peut-être bien différentes de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à regarder l'autre comme étant notre supérieur. Et je crois que c'est une bonne philosophie. C'est pas parce que, on a réussi dans le monde professionnel, qu'on a une bonne activité professionnelle, ou bien qu'on a une bonne santé, ou que sais-je, qu'on est supérieur aux autres. Non, regardons les gens que nous côtoyons dans la rue aussi comme étant supérieurs à nous. Ayons cette humilité de cœur, cette humilité qui était dans le Seigneur. Et cette humilité, je crois que le Seigneur désire encore nous revêtir chacun d'entre nous, afin qu'on puisse être un témoin fidèle de notre Dieu, et que nous puissions être des gens accueillants, et que nous puissions être des gens bienveillants, et que nous puissions être des gens courtois, agréables, serviables, soucieux des autres. Amen. Et c'est vrai que je vous ai parlé de la société au début. Pourquoi? Mais pour dire que cette société dans laquelle on se trouve, cette société qui nous environne, des fois, de manière inconsciente, elle va avoir un impact sur nous. À part si on vit sur une grotte ou en haut d'une montagne. Elle va quand même avoir une influence. Parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus violente. Et puis, des fois, on a la peur qui va peut-être nous saisir. Ou bien on a peut-être la colère qui va nous saisir. Ou que sais-je, quoi. Mais le Seigneur nous appelle à nous revêtir d'humilité, à nous revêtir de sentiments d'amour, à nous revêtir de sentiments de bienveillance envers les gens qui nous entourent. Alors, sans faire de nous des bisounours, mais quand même en gardant un cœur disponible pour le Seigneur et en gardant ses valeurs au fond de nos tripes. On ne veut pas se laisser entraîner par ce monde C'est pour ça que si je reviens sur les gilets jaunes, là en France, les démarches qui sont encore faites actuellement, et je crois qu'il y a eu un peu d'ailleurs de violence ce week-end à Paris, moi j'ai envie de dire c'est presque un peu une lutte, c'est presque une peine perdue quelque part. Et puis surtout quand ça part dans la violence. À quoi sert la violence, hein? Ce n'est pas la violence qui va résoudre les problèmes qui se trouvent en France actuellement. Et voilà, marchons humblement, marchons dans la non-violence, marchons dans le respect. Et même si c'est vrai que des fois, dans ce monde, c'est le méchant qui triomphe, tant pis, le jugement appartient au Seigneur. Et c'est ce que d'ailleurs Jésus nous avait enseigné dans Luc 16, que le jugement appartient à Dieu. Et c'est une parabole ici qui est bien connue parce qu'elle nous parle de Lazare et de l'homme riche. Luc 16, 19. Luc 16, 19. Je lis. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi !» et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. » D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Voici donc l'histoire d'un homme qui menait joyeuse et brillante vie. Il était magnifiquement revêtu d'habits somptueux de couleur pourpre et pas en n'importe quelle étoffe car celle-ci était en fin lin. Alors que Lazare, lui, ne recevait même pas les miettes qui tombait de la table de cet homme riche, qui jour après jour festoyait. Mais la mort est venue, frappant ces deux hommes. Et là, ce n'est pas le statut social qui a pu empêcher aux riches de mourir. Et d'ailleurs, dans notre société d'aujourd'hui, ce n'est pas non plus le statut social qui empêchera un riche de mourir. Hein, même si gentiment, il y a des recherches qui se mettent en place et il y a des progrès qui se font, si on peut appeler ça des progrès, hein, d'une médecine qu'on pourrait appeler la médecine de la longévité. Gentiment, sur le marché va arriver ce genre de médecine, mais seulement ce sera pour les plus riches. Les autres n'auront pas accès à cette médecine-là. Donc, ne vous en faites pas, on ne va pas encore vous donner d'autres médicaments à prendre. Hein. On n'a pas accès, nous, en tant que simples citoyens, à cette médecine-là. Donc la mort a frappé ces deux hommes, en premier le pauvre et ensuite le riche, qui menait une vie égocentrique et ne se souciait jamais des autres. Mais c'est la mort qui a tout chamboulé, car pour l'un, il était conduit au paradis, alors que l'autre s'est retrouvé dans le séjour des morts. Et cette parabole nous donne de comprendre que ce n'est pas forcément sur cette terre qu'on va voir la justice de Dieu se manifester. Le méchant, des fois, il semble qu'il prospère. Il semble que rien ne peut l'atteindre, alors que le juste qui cherche à vivre pieusement, il est confronté à plein de difficultés, à plein de déboires, à des maladies, et que sais-je encore. Mais rappelons-nous que la justice du Seigneur, si parfois peut-être il semble qu'elle peut se faire attendre, elle se manifestera toujours. Et ça me fait penser à un ancien voisin qui menait aussi d'une certaine manière joyeuse et brillante vie, selon le monde. Hein. Il trompait sa femme et un jour, d'ailleurs, il a demandé le divorce. Il a refait sa vie, hein, comme on dit dans la société, avec une femme plus jeune que lui, hein, bien sûr. Il avait un bon salaire parce qu'il était instituteur et de longues vacances. Et à côté de ça, il était instructeur de vol. Donc voilà, la vie paraissait magnifique pour lui. Jusqu'à ce qu'un beau jour, alors qu'il volait avec un avion historique, il s'est crashé, sauf erreur, je crois même, dans le lac de Neuchâtel, ou juste au bord, quoi. Quelque temps avant sa mort, son ex-épouse avait organisé un repas avec lui et leurs enfants afin de se réconcilier. Et c'est comme si, d'une manière inconsciente, son ex-femme prenait congé de lui. Est-ce que cet homme a eu le temps de se repentir et de donner sa vie à Christ? Permettez-moi de douter. Hein? Permettez-moi de douter. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui écoutait l'Évangile, qui allait à l'Église, qui avait une démarche spirituelle. Non, il vivait brillante vie et joyeuse vie, hein, comme bon lui semblait. Est-ce que c'est le jugement de Dieu qui s'est abattu sur cet homme? Peut-être. Je ne sais rien. Hein? Mais en tout cas, il a fait terriblement souffrir sa femme au travers de ce divorce. Et lui ne s'est jamais inquiété de ceci. Il a continué son existence comme bon lui semblait, en ayant bien sûr le pouvoir financier. Il n'avait pas trop à se remettre en question. Donc, oui, le dernier mot appartient à Dieu. Et les temps sont dans sa main. Même si aujourd'hui, des fois, la situation de notre société nous semble complexe, soyons pleins de courage, soyons pleins de foi, soyons pleins d'espérance et revêtons-nous simplement d'humilité. Parce que je pense que l'humilité est quelque part un remède par rapport à cette société environnante qui a la fièvre quelque part. Laissons-nous revêtir d'humilité. Matthieu 5, verset 5, vous connaissez ce verset, nous dit encore « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les gentils, heureux les doux, heureux les humbles, car c'est bien eux qui, un jour, avec le Christ, hériteront la terre. » Alors, comme je l'ai dit au début de ce message, examinons-nous comme nous demande la Bible. Hein? Demandons au Seigneur si peut-être dans certaines de nos attitudes, dans certaines de nos réactions, dans certaines de nos pensées, nous avons besoin de nous dévêtir afin de revêtir le Christ. Examinons-nous aussi peut-être lorsqu'un frère ou une sœur nous fait une remarque. Ayons l'humilité de reconnaître que par là, il est possible que ce soit la voie de notre serviteur, le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous accomplirons le verset d'Éphésiens 5, verset 21, donc, je vous lis, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ. » Parce que c'est là bien la force de l'Église, c'est qu'on est appelé à se soumettre les uns les autres, à nous exhorter les uns les autres, à pouvoir fonctionner comme un corps, et ce corps, d'ailleurs, la tête appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne veut pas être influencé par le monde actuel qui vit souvent dans la rébellion, mais nous voulons nous revêtir des sentiments qui se trouvaient en Christ, sentiments d'humilité, de dépouillement, de mort à soi-même, sentiments de service et sentiments d'amour envers son prochain. Amen.